monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir, et avec moi dans le studio Carmen Eliam, créatrice de bijoux contemporains dans la région de Washington. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie de m'avoir invitée, c'est un honneur pour moi d'être ici.
Donc vous êtes d'origine ivoirienne, n'est-ce pas? Vous êtes une créatrice très audacieuse de bijoux de cuivre, comme on peut le voir pour ceux qui nous voient, dotée d'une imagination sans limite et je dois dire d'une vision puissante, un futuriste. Alors ces pièces synthétisent votre grand intérêt pour le design, la fascination notamment pour la couleur et l'attention aux détails. Alors on va essayer d'abord, avant de vous demander comment ça a commencé cette histoire d'amour avec le cuivre, parce que vous travaillez essentiellement avec le cuivre, mais vous êtes presque recouverte de cuivre. Alors vous en avez sur la tête, vous en avez sur le cou, vous en avez autour du bras, c'est un ravissant bracelet gigantesque sur le bras, et vous avez également une belle bague, deux bagues d'ailleurs, moi j'en ai une aussi. Pourriez-vous vous décrire ce que vous portez, ce bonnet, ce bijou?
Alors, je m'appelle Carmen Eliam, je suis créatrice de bijoux de cuivre. Pourquoi le cuivre? Le cuivre est venu à moi. Mon parcours, c'est les beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts Aix-en-Provence et ensuite, je suis arrivée à Paris. Paris, j'ai fait une école de graphic design, mais je ne savais pas toujours quoi faire avec mes mains. C'est en arrivant à Washington que j'ai eu un problème de langage. Je ne parlais pas la langue. J'ai rencontré une amie qui faisait des bijoux et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire des bijoux, enfiler des perles. Et puis un jour, j'ai une dame qui m'a dit « Mais vous avez une collection superbe de perles, mais il manque quelque chose pour un alliage. » Et un jour, j'ai une autre amie qui vient me voir, elle m'offre du fil de cuivre. Et voilà, ça a été le mariage avec le cuivre.
Et, ça a été le coup de foudre, je dirais.
Ça a été le coup de foudre, le mariage, ça a été... Waouh.
On le voit. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le cuivre?
La malléabilité et aussi les propriétés bénéfiques. C'est extraordinaire. Le cuivre, en fait, c'est un élément conducteur. C'est aussi quelque chose, c'est un médicament. Moi, j'appelle ça un médicament. Le cuivre, ça soigne l'arthrite, l'arthrose, c'est une protection. Et en plus, moi, ce qui m'a attiré, c'est que c'est recyclable. C'est du fil électrique. Que je récupère. Vous savez que maintenant le cuivre est très coté, il est même beaucoup plus cher que l'argent.
Ah bon?
Alors les gens, ce que j'ai appris, les gens volent du fil, le fil de cuivre.
Et vous ne le volez pas?
Non.
C'est dans la presse.
La célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey a fait au Golden Globes de janvier 2018 un discours relançant les spéculations sur une éventuelle candidature à la présidence des États-Unis. Récompensée pour l'ensemble de sa carrière, son discours suit le mouvement amorcé par l'affaire Weinstein, non sans aller bien au-delà. Elle a parlé de deux figures de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Rosa Parks et Recy Taylor. Recy Taylor qu'on connaît moins bien, mais qui a eu effectivement un passage dramatique dans sa vie. Interrogée après son discours pour savoir si elle comptait se présenter à la présidentielle, elle a répondu ne pas y penser. Mais selon CNN, citant des personnes de son entourage, elle réfléchirait sérieusement à une candidature. Début 2017, elle avait laissé entendre que la victoire électorale d'un promoteur immobilier sans la moindre expérience politique, Donald Trump, l'avait fait réfléchir à une candidature. Elle avait ensuite déclaré qu'elle ne se présenterait jamais à aucun mandat politique. C'est aux gens de décider, a renchéri son compagnon Steve McGraw, disant elle le ferait, c'est clair. Carmen Eliam. Ça vous fait sourire, n'est-ce pas? Ça vous plaît? Ça vous plaît?
J'adore. Oprah, c'est extraordinaire. C'est un modèle.
Mm-hmm. Carmen, l'histoire du cuivre. Vous ne m'avez pas décrit ce que vous portez là. Parce que vous dites que c'est bénéfique. Alors j'imagine que si vous le portez sur la tête comme ça, c'est parce que ça a vraiment un pouvoir bénéfique sur vous?
Absolument. Un pouvoir bénéfique, c'est-à-dire que le cuivre attire les ondes positives. C'est une protection. J'ai des clientes qui m'envoient des emails en me disant j'avais des problèmes, je prenais pas mal de médicaments et depuis que je porte vos bijoux, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Mm-hmm. Parce que je fais du Reiki aussi, hein. C'est-à-dire que je soigne avec les mains. Donc en fait, je mets tout ça dans les bijoux.
Vous soignez avec les mains, avec vos mains, vous?
Avec mes mains.
Ah,
j'ai les mains chaudes, je suis née avec des mains chaudes. Mm-hmm. Alors vous m'avez demandé qu'est-ce que je portais. Alors je porte ce que je porte, c'est une armure. J'appelle ça une armure. Et je l'ai dédiée en fait à Lady Gaga. Si un jour Lady Gaga me voit, si un jour ça l'intéresse, je suis prête à en faire une armure pour elle.
Bah, de toute façon, quand on voit ce que vous faites, c'est des stars que vous devriez vraiment habiller, j'ai envie de dire, avec vos bijoux, franchement. Ça devrait être présenté sur une étoile, tout ça.
Bah, ça arrive.
Ça arrive.
Les gens connaissent, quand ils voient mon bijou, ils savent que Carmen et tout le monde me dit.
Dans le milieu de la mode aussi.
Dans le milieu de la mode.
Ouais. Et puis vous exposez dans les musées. Alors ça, c'est pas rien. C'est pas tous les bijoutiers qui exposent leurs bijoux dans les musées, n'est-ce pas?
C'est pour ça que je vous disais, chaque chose en son temps.
Ouais.
J'expose à l'American University et la boutique du musée. J'expose aussi dans une galerie au Watergate.
Il n'y en a pas un autre dont vous m'avez parlé, ça va venir?
African American Museum, ça va venir.
Ah, ça, c'est pas rien.
Depuis le mois de juin, j'ai 10 musées.
Parole de femme.
Lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. 3000 familles démunies de la région de Bouaké bénéficient d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA grâce au projet Filets sociaux productifs qui vise à soutenir les populations rurales par des transferts monétaires afin notamment d'inciter les femmes à se lancer dans des activités génératrices de revenus. D'autres familles ivoiriennes en situation d'extrême pauvreté sont concernées par cette mesure. Notre correspondant Siriki Barrault était dans la commune de Djébonois lors du lancement du processus paiement du projet. Voici un extrait de son reportage, on l'écoute.
Bruit de tam-tam et acclamations après la remise symbolique à 12 familles démunies des kits composés d'un téléphone portable et d'une puce téléphonique. Un équipement indispensable pour ces familles en vue de recevoir leurs allocations qui se feront via les services de transfert et de paiement d'un opérateur de téléphonie mobile. Nguessan Odile est mère de 5 enfants. Sans revenu, elle vivait dans une situation difficile. Elle figure dans la liste des bénéficiaires de la phase pilote.
Avant que le projet n'arrive, on avait vraiment des difficultés. Mais depuis l'arrivée de ce projet, moi particulièrement, j'ai bénéficié déjà de 3 trimestres. Donc ces 3 trimestres m'ont valu d'agrandir mon champ. Grâce à ça, mon enfant va à l'école cette année sans problème. Ce projet est bienvenu pour vraiment nous les pauvres.
Odile, une mère de famille de Djébonois en Côte d'Ivoire, dans un reportage de Siriki Barrault, que vous pouvez donc écouter entièrement sur voaafrique.com. Vous écoutez Le Monde au Féminin avec Carmen Eliam qui me regarde très sérieusement. Carmen, vous avez quelque chose à dire?
C'est quand même assez triste ce que je viens d'entendre sur les femmes à Bouaké. Mm-hmm. J'ai des projets futurs en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie et je pense que ça va se faire. On a tellement de richesses et malheureusement, on ne l'utilise pas, surtout l'art, dans le domaine de l'art. Et moi, mon projet futur, c'est d'enseigner, d'aller donner de mon temps et offrir des cours aux familles, aux jeunes filles les plus démunies. Et ça, c'est un souhait que j'ai depuis les années 2000.
Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire?
J'attends l'opportunité. Tout ce que je fais, c'est, je le fais avec le déclic. Les bijoux que je fais, c'est le déclic, c'est les rêves.
Et donc, vos clients, quels sont vos plus gros clients, par exemple? Vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Mes gros clients, c'est des employés de la Banque mondiale, des femmes d'affaires, docteurs. J'ai trois types de clients. J'ai des femmes fortunées, j'ai des femmes qui commencent, qui rentrent dans le monde du travail dans les 30-35 ans, et j'ai des jeunes filles de 18 ans, 15 ans, qui veulent des petits bijoux de...
Vous faites le prêt-à-porter aussi.
J'ai fait le prêt-à-porter quand j'avais 16 ans. Oui. J'avais ma propre ligne quand j'étais encore à l'école à Abidjan. Je crois que l'art et j'étais toujours attirée par l'art et mes mains ont toujours été. J'ai toujours envie d'utiliser mes mains et j'ai eu ma propre collection de vêtements que je vendais dans une boutique à la pyramide à Abidjan.
Quand je disais prêt à porter, c'était parce que je considérais vraiment les œuvres qu'on voit là comme des œuvres d'art de haute bijouterie, on va dire. Et je me disais, ça doit être assez cher, j'imagine, ces belles pièces-là. C'est pas donné à tout le monde, peut-être, de se les procurer, non ?
C'est pour ça que je dis que j'ai trois gammes de prix.
Si je ne pouvais.
Notre correspondante au Togo, Kayla Sun, a rencontré des jeunes volontaires nationaux à Lomé. Souvent à la recherche d'un emploi, ces jeunes viennent en appui aux communautés dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection de l'environnement et l'inclusion financière, entre autres secteurs. Le volontariat est en effet une passerelle pour acquérir une expérience professionnelle et un premier pas dans la vie active pour de nombreux jeunes. Je vous propose un extrait du reportage de Kayla Sun.
Munie d'une licence en sociologie, option pratique sociale, développement et santé, Clarissa Adjovi Adé est de la 12e promotion des volontaires.
Je dirais que c'est un pas sur le chômage, mais ça aussi, ça vaut la peine quand même. Parce qu'en attendant à avoir des expériences, lorsque nous serons dans les structures d'accueil, on fera de nos mieux pour le développement du pays. Nous, les volontaires, nous avons une mission de rendre service dans le but du développement et de l'épanouissement.
Koku Doro, sous enseignant volontaire, estime que ce programme de volontariat est un pont entre l'université et le marché de l'emploi.
Le volontariat, c'est un trait d'union entre le travail et la compétence. Donc, le volontariat, c'est une opportunité pour la jeunesse de faire valoir leur potentialité, leur savoir-faire. En partie, le volontariat réduit le taux de chômage. Ça donne l'expérience. Et maintenant, quand vous avez l'expérience et la compétence professionnelle, vous pouvez maintenant vous présenter sur le marché de l'emploi et vous serez sélectionné.
Engagé dans le volontariat en 2013, grâce à Tignon de Souza, témoigne avoir échappé au chômage grâce à ce programme. Elle dirige aujourd'hui le foyer des jeunes filles à Agometomegbe, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Lomé.
J'ai intégré le programme depuis 2013. J'étais bien au chômage, j'ai eu mon diplôme en 2006 et c'est en 2013 que j'ai commencé le volontariat. Donc en rentrant dans le volontariat, je me suis vue capable d'être utile pour le développement de la nation. Et aussi, j'ai renforcé mes capacités dans le domaine de l'animation, dans le domaine du développement communautaire. Et puis j'ai acquis d'autres compétences dans la gestion des ressources humaines en matière de planification et de gestion de budget.
Un extrait du reportage de Kayla Sun sur le volontariat au Togo que vous pouvez suivre intégralement sur voaafrique.com.
Est-ce que la jeunesse pouvait?
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Carmen Eliam. Et c'est un plaisir pour ceux qui nous voient. J'imagine qu'ils la voient, elle est ravissante avec les bijoux. Elle porte ses bijoux, les bijoux qui sont ses propres créations. Vous allez nous en parler un petit peu. On va essayer de décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio cette magnifique pièce ici. Vous utilisez quel type de perles en fait? Quelle est la matière des perles?
C'est des perles de verre. Cousu à la main et en fait ce que je fais c'est que je fais une
donc,
base
un petit peu mauve clair hein, c'est
mauve
ça
clair ouais. En fait je fais une base de cuivre que je tresse et ensuite je couds je couds les pierres à la main. Ça me, je veux dire, ça, ce collier, je sais pas, il peut me prendre 2-3 jours pour le faire. Et j'ai pas de dessin en fait.
Ça peut être un collier de mariée, ça, non?
Ça peut être un collier de mariée, comme ça peut être une
robe de soirée, ça peut être une couronne aussi.
Une couronne, ouais. Ça peut être.
Et vous avez un joli ruban violet derrière, effectivement, pour le fermer.
Pour le fermer, enfin bon, c'est on peut changer.
Vous leur donnez des noms à vos créations?
Absolument, absolument.
Comment s'appelle celui-ci?
Ça s'appelle Héritage Couture. C'est un collier qui marche très très bien. Ça, c'est un bijou haut de gamme. Et dans des bijoux haut de gamme, j'ai ça aussi. Ça, c'est un collier que j'ai fait il y a quand même quelques années.
Ravissant, des perles de toutes les couleurs.
Des perles de toutes les couleurs.
Toujours sur le support en cuivre. Hein.
Toujours.
Cuivre tressé.
Toujours sur le support en cuivre, exactement. Et en fait, ce collier, c'est comme j'appelle de stress release. Quand je suis stressée comme tout le monde, et au lieu de piétiner, et ben je commence à travailler.
Ça, c'est vraiment les vertus thérapeutiques de l'artisanat. Chaque personne qui a pu toucher à ce type d'activité, n'est-ce pas, l'artisanat, la couture, hein, c'est rien que la couture, tricoter, le tricotage. Et vous savez que dans certaines écoles, et des grandes écoles, hein, on utilise le tricotage, les élèves tricotent justement pour ces raisons. Là et bien d'autres aussi, la concentration, hein, comme quoi. Hein.
Ah, absolument. Et moi j'enseigne aussi, hein, j'enseigne dans des organisations le soir et je vois mes élèves qui arrivent complètement stressés.
Et ça leur fait du bien.
Après 10 minutes, je ne les entends plus.
Ça leur
fait du bien. Je les entends plus, on est une heure et demie de cours, mais bon, ça passe tellement vite que mes élèves me disent, mais il est déjà l'heure de partir. Et c'est une super thérapie.
Bien sûr. Parlez-nous de cette magnifique pièce là que je verrais bien, je ne sais pas, au cou d'une star aussi, je ne sais pas.
Absolument, absolument, absolument.
On a des anneaux de cuivre qui tiennent, comment vous appelez ça, les chaînes anneaux qui pendent.
Comme on dit, c'est la soudure froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliage avec le feu. Donc, toutes ces pierres, comme on appelle comme des tubes, que j'enroule autour d'un.
Comme des ressorts.
Voilà, comme des ressorts.
Spirales, oui.
Voilà, des spirales, et que je coupe, et à la main, je les mets ensemble. Et cette pièce, je ne sais pas combien d'heures ça m'a pris, mais tout est fait à la main.
Et ça s'appelle comment celle-là?
Ah, ben ça, c'est Carmen, quoi. Je dis n'importe quoi.
Mais non, mais elle porte très bien son nom, Carmen. Ça lui va très bien. La rouge, elle s'appelle comment? Ce collier rouge.
La rouge, elle s'appelle Torture.
Mais ça fait vraiment du mal quand on la porte. Justement, je voulais vous demander, ce que vous portez sur la tête, c'est confortable?
Absolument.
Ah bon?
Absolument. C'est-à-dire que le cuivre est tellement malléable, c'est-à-dire que c'est exactement le même procédé. Ce bracelet.
C'est vrai que ça bouge, c'est ça qui est formidable.
C'est deux bracelets en fait.
Ça bouge et ça ne va jamais casser.
Ça ne va jamais, jamais casser. En fait, ce bracelet, je l'ouvre. Je l'ouvre comme ça,
on va continuer de l'ouvrir sur un autre reportage.
Entre parenthèses.
Au Cameroun, la réhabilitation des jeunes aveugles connaît un succès remarquable grâce au chanteur Coco Bertin, qui a mis sur pied en 1988 le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Depuis 2003, cette organisation non gouvernementale gagne en crédibilité, notamment grâce à son école primaire bilingue inclusive. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, s'y est rendu.
À l'école primaire bilingue inclusive Louis Braille, la ponctualité est de rigueur. 7h30 marque le début effectif des cours. Coco Bertin ne déroge pas à la règle. Handicapé visuel, il est le promoteur du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Coco nous conduit dans une salle de classe dite spécialisée.
Ici, rien que les enfants handicapés. On les accueille d'abord ici. Et c'est après maintenant qu'on les amène dans les salles de classe. Après qu'on leur ait donné une formation pour qu'ils soient capables de suivre le cours.
À l'intérieur, 19 élèves. L'ambiance est studieuse, sous la conduite de 3 enseignantes. 2 d'entre elles sont non-voyantes et l'autre est malvoyante. Blandine, Rachetée et Esther éduquent néanmoins les élèves avec passion.
Là, nous voulons commencer par l'écriture de la date et de leur nom. Tous n'ont pas le même niveau.
Je suis Madame Rachetée. Gisèle, les femmes de Braille. Après l'alphabet, on fait les syllabes, les mathématiques.
Mademoiselle Momne Gessier.
Elle.
L'effectif de l'école primaire bilingue inclusive est de 250 élèves. À l'ouverture de l'établissement en 2003, l'école n'avait que 16 élèves. Certains parents envoient même leurs enfants valides y suivre des cours. Et depuis quelques années, des candidats spéciaux de l'école sont présentés aux examens officiels. À l'instar de Marcel Odile, elle a perdu la vue à l'âge de 8 ans et frappe aux portes du cycle secondaire en mai prochain.
J'avais arrêté au cours moyen 2, j'avais 9 ans. Je souhaitais vraiment étudier. Je suis restée très longtemps à la maison. Mon père avait décidé que je vienne apprendre à écrire le braille pour pouvoir avoir le CEP.
Si Marcel Odile est admise au lycée, c'est l'équipe du Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun qui va assurer la transcription de ses cours. La formation en braille attire également ici d'autres jeunes aveugles décidés à braver leur handicap. Dans la cour de l'école ce jour, la jeune Biloa.
Je ne suis pas née aveugle. Il est bel et bien vrai que étant encore petite, j'avais les problèmes de yeux. Avec le temps, la maladie a envahi mes yeux. Bon, moi, je suis là pour apprendre le braille et rentrer à l'école l'année prochaine.
Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun nourrit aussi l'ambition de faire fabriquer la toute première canne blanche made in Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Carmen Eliam, le mot de la fin. Je vais vous poser peut-être la question que je pose à beaucoup de gens. Vous êtes une femme d'origine africaine, vous vivez aux États-Unis, vous gagnez votre vie ici et vous regardez l'Afrique d'un certain regard. Quels sont vos souhaits, vos vœux, tiens, on peut dire pour les femmes en Afrique, la jeunesse, les femmes, les enfants?
Vouloir, c'est pouvoir. Et qu'elles ne se restreignent pas quand elles veulent faire quelque chose, il faut le faire. Faut pas se dire ah non, je le fais pas parce que etc. Moi je suis partie de chez moi, j'avais 18 ans et j'avais la volonté, j'avais envie de découvrir le monde.
Vous êtes partie vous en France, c'est ça, non?
Je suis allée faire des études aux Beaux-Arts en France.
Oui, oui.
Mes parents, mon père n'était pas d'accord, mais bon, c'est ce que j'avais envie de faire et je l'ai fait. Je suis partie et puis mon souhait c'est de retourner en Afrique.
Et d'y rester ou pas?
Non.
Pourquoi?
Non. D'avoir un pied à cheval sur l'Afrique. Ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir une école.
Mais vous avez fait les Beaux-Arts. Vous pouvez le faire, ça, parce que les Beaux-Arts, c'est quand même une excellente formation.
Absolument. J'ai envie de le faire.
Il faut des fonds.
Voilà. Et bon.
C'est le fameux de l'affaire.
C'est le fameux de l'affaire. Il faut des fonds, il faut taper aux portes. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Et je pense que c'est possible.
Quand est-ce que vous êtes allé en Afrique la dernière fois?
Il y a trois ans.
Qu'est-ce que vous avez ramené?
J'ai ramené le désir de vraiment m'installer, de construire quelque chose là-bas.
Très bien, on va terminer là-dessus. Carmen Eliam, artiste à Washington DC, la capitale des États-Unis, n'est-ce pas?
Oui,
artiste, vraiment, artiste, créatrice de bijoux contemporains. Merci beaucoup.
Merci.
Pour le monde au féminin. Je remercie également Joselle Morissin.
Merci.
À la production et Wagner Robert. Et bien sûr nos auditeurs. À très bientôt, au revoir.
Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir invité et puis au plaisir. On en reparlera pour le futur, Hollywood.
Arrête.